Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant ! Hello, hello les belles terriennes, les beaux terriens, ravis de vous retrouver dans cet épisode numéro 6 du podcast « Je peux pas, j'ai l'une ». Aujourd'hui, nous allons écouter Charlie de Libera Verda, comme il y a 15 jours où notre échange portait sur la thématique radicalement vivant dans le monde moderne. Dans l'épisode numéro 5 avec Charlie, nous avions évoqué notamment le fait que sans les arbres, nous ne pouvions pas respirer, le fait que notre écosystème intérieur était comme l'écosystème extérieur, que tout était lié et que parfois il fallait faire certaines actions pour éviter que les choses se dégradent dans les écosystèmes et qu'au contraire ça s'aggrade. Alors moi j'adore ce mot puisque aggrader veut dire améliorer, voilà. Et là où Charlie et moi nous avons finalement le même travail, c'est que nous travaillons tous les deux pour aggrader, pour améliorer les écosystèmes. Voilà, je vous en dis pas plus, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti.
C'est-à-dire, aggrader, en fait, c'est l'inverse de dégrader. C'est-à-dire qu'on est constamment, en fait, un milieu qui se diversifie, il va s'enrichir, et plus il s'enrichit, plus il diversifie. Et ça, c'est une des clés. Et moi, je le fais le constat hein, sur mon champ, où on est passé de 30-40 espèces à 300-400, quoi. Mm. En l'espace de quelques années. Donc, c'est simple, il suffit juste d'accompagner, en fait. Il n'y a pas besoin la non-intervention, c'est voilà. Et il faut de la patience, parce que c'est ça aussi que nous apprend le végétal, c'est la patience. Exemple, quand on part d'une première récolte de pommes de terre avec 90% de pommes de terre rongées par les mulots, et que la dernière récolte est à peine 1%, ben voilà, c'est gagné, c'est en équilibre, et ça fonctionne, et ça devient abondant.
Ouais, cette dimension du temps-là, elle est intéressante. Aujourd'hui, ça fait appel au titre, finalement. Dans le monde moderne, aujourd'hui, tout doit aller vite. On est à l'heure des réseaux sociaux, il faut répondre tout de suite. Si on envoie un message à un tel, il peut voir, il peut constater si on l'a lu. Si on l'a lu mais qu'on ne répond pas, l'autre va être dans la réactivité. Mais pourquoi il ne me répond pas ? Et revenons justement au cycle du vivant. Qui sont sur une autre échelle temps, qui n'a rien à voir avec notre montre d'aujourd'hui, avec nos injonctions sociétales d'aujourd'hui, nos rendements d'aujourd'hui. Dans mes consultations, j'explique souvent aux personnes, notamment quand on est sur des processus de deuil. Alors un processus de deuil, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus d'acceptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le parcours de vie, il y a quelque chose qui est venu trancher. Un deuil, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un qui est mort, mais ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un déménagement, ça peut être un enfant qui passe de l'enfant à l'adolescence. Pouf, il y a un changement radical dans un chemin de vie. Et j'explique souvent aux personnes que c'est OK, en fait. Si tout ne revient pas comme avant, de toute façon, tout ne reviendra pas comme avant, mais c'est OK que... tu traverses ces processus de ça me convient pas, je me sens en colère, puis après je me sens triste, et puis j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, et puis je voudrais retourner comme avant, et puis pof, à un moment donné, il y a cette bascule de ah ça y est, j'accepte que c'est là. Donc voilà, ça on est dans le processus de deuil. Et j'explique que le processus de deuil, il dure un an. Pourquoi un an ? Parce que en fait, il faut traverser ta nouvelle vie dans toutes les saisons. Et souvent, quand j'explique ça aux personnes, je vois qu'il y a un petit temps d'arrêt en disant « Ah ouais ? Ben ouais, en fait, vis ta nouvelle vie, vis cette nouvelle étape de vie au printemps. puis à l'été, puis à l'automne, puis à l'hiver. Et une fois que tu auras traversé ces quatre saisons avec cette nouvelle vie, ça y est, tu l'auras fait au moins une fois et la boucle, elle est bouclée en fait. Et ça, je le répète, franchement, je pense que je le répète à peu près 3 fois par semaine dans mes consultations, dans mes accompagnements, dans mes formations. Acceptons d'être dans une lenteur, en fait, qui est liée, en fait, à la lenteur du vivant. En fait, je pense qu'on dit lenteur parce qu'aujourd'hui, notre monde va vite. Ouais, mais en fait, c'est pas de la lenteur.
C'est un rythme. C'est juste un rythme.
C'est ça, c'est un rythme.
C'est pareil, des gens qui se lancent dans le jardinage, vous faites les 4 saisons.
C'est ça.
Parce qu'à un moment donné, si vous arrêtez qu'à une, vous n'avez pas fait le cycle, en fait. Et c'est tout l'intérêt. Moi, j'y trouve énormément de plaisir aussi à ça. C'est que chaque saison est différente. Donc, on a une activité différente à chaque fois. Et d'une année sur l'autre, ce n'est pas les mêmes saisons, en fait. Alors, encore plus maintenant. Mais du coup, ça peut paraître compliqué, et c'est de plus en plus compliqué de produire de la nourriture. Ça faut pas, tant que les étals ils sont remplis dans les magasins, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous, sur le terrain, on s'en rend bien compte que la fragilité, elle est de plus en plus présente. Mais quelque part, ça nous permet de sortir de nos pratiques habituelles et d'essayer de trouver aussi et de s'adapter avec des nouvelles techniques. Moi, de plus en plus, par exemple, j'adapte l'aménagement spatial sur l'ombre et la lumière, par exemple, ce que je faisais pas avant. Planter des patates maintenant pour faire des patates nouvelles fin octobre. Voilà, des choses que je faisais pas avant et que maintenant sont possibles. Donc, s'il y a des choses qui s'enlèvent, il y en a d'autres qui remplacent. Donc, mais voilà, faut libérer son esprit créatif, faut oser. Et puis partir surtout dans l'état d'esprit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, je recommencerai d'une autre façon ou je recommencerai pas.
Et là, ce qui me vient en t'écoutant, c'est de me dire, tu dis faut libérer son esprit créatif. Ok, et comment on fait? Tu vois, aujourd'hui, on nous sert tellement tout sur un plateau doré, y a des écrans partout, y a des images partout... Et du coup, ce trop-plein de tout dans tous les sens peut parfois venir bloquer une créativité parce que finalement, tu deviens feignant, en fait. Tu te dis, à quoi ça sert que je crée puisque tout est déjà là. Eh bien, je trouve que... Alors moi, je vais parler, du coup, mon côté, tu vois, c'est-à-dire le corps. Puis je te laisserai peut-être donner ta petite patte par rapport à ton côté en agroécologie, plutôt. Comment on cultive en fait cet esprit créatif, cet esprit inventif, le fait de se réinventer, de trouver des solutions quand il y a un problème de façon rapide, plusieurs solutions pour un seul problème. Pour moi, une des clés, c'est de revenir au corps, c'est de revenir du coup au souffle, autoriser à se poser. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses que je répète et que je répète encore et encore, mais ok, à un moment donné... On sent que, les saisons sont en décalé, on n'y arrive plus, on a un problème sur cet aspect-là. Ok, je m'autorise un temps de pause, je viens respirer au-dedans de mon corps. Et finalement, quand tu respires, tu t'en rends compte que tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste peut-être l'inspire à mettre en route, qui est un mouvement volontaire, d'accord, qui est géré par le système nerveux volontaire de notre corps. Mais finalement, l'expiration, tu n'as rien à faire. C'est automatique. Ton corps, il sait faire tout seul. Il n'a pas besoin de toi. C'est le système nerveux autonome qui gère ça. Déjà, rien que ça, je trouve ça chouette de laisser faire ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'expiration, d'un point de vue physiologique, elle te permet de lâcher prise. Donc, tu descends, tu sors de ton mental et tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ton centre, ton bassin, tu reviens dans ton cœur, donc plus le côté émotionnel. Et là, finalement, tu viens ouvrir des nouveaux espaces. Voilà, tu desserres les dents et t'ouvres des portes. Et en fait, quand t'ouvres des portes, si tu continues à respirer, petit à petit, l'esprit créatif, l'imaginaire se remet en route. Si jamais c'est difficile, parce qu'on n'a plus l'habitude de se poser comme ça, on n'a plus l'habitude de s'offrir des espaces où on ne fait rien, tellement on fait tellement de choses tout le temps... L'autre outil que moi j'aime bien utiliser, c'est le mouvement. Le mouvement et le toucher. qui sont pour moi deux choses que tu peux pas dissocier parce que dans le mouvement, il y a forcément le corps, il y a forcément la peau et ça vient faire appel à tous ces récepteurs et tous ces systèmes, notamment la proprioception et la kinesthésie que moi j'aime beaucoup. Et voilà, le fait de se remettre en mouvement, le fait de bouger, le fait de venir peut-être s'automasser, le fait de venir, ben, toi tu l'as dit, toucher la terre, t'as besoin de toucher la terre, ben, ça fait appel au toucher. Pareil, pof, on sort de son mental, on sort de ce néocortex qui est tout le temps en train de réfléchir, on passe dans autre chose, on repasse dans notre écologie corporelle qui fait qu'à un moment donné, t'es dans d'autres circuits. Et quand tu viens ouvrir des nouvelles portes, pof, l'esprit créatif y revient. Je l'ai dit, hein, je me répète, finalement, on dit tout le temps la même chose. Moi, quand j'ai plus l'esprit créatif pour rédiger, qu'est-ce que je fais ? Je coupe l'ordinateur et je sors, je vais en contact avec l'environnement, je me mets à marcher, je me mets à respirer. Voilà, j'ai juste dit dans d'autres mots.
Ouais, ben oui.
En fait, on dit tout le temps pareil, hein.
Ouais.
Mais c'est par la répétition qu'on apprend et qu'on ancre les choses.
Voilà, moi, déjà, pour moi, la base de... pour pouvoir enclencher sa créativité, c'est d'observer. Moi, pourquoi à un moment donné, je travaille sur l'ombre et lumière, parce que on a des différences. J'observe que on a des variations de température et d'intensité aussi du soleil. Hein. On néglige aussi souvent de regarder les cartes UV, mais on a souvent des jours en alerte rouge, on va dire. Je l'invite à regarder ça parce que quand vous voyez les recommandations qu'on a en rouge, faut pas sortir, hein. Surtout pas les enfants. C'est méconnu, mais moi je suis ça aussi. Et donc du coup c'est l'observation, puisque ça me permet de faire des constats. Et à partir de ce constat, ben, j'essaye de trouver des solutions. Et c'est là que certaines solutions que moi j'essaye de mettre en place. Hein. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est pas dans les manuels. Ça va de plus en plus, ça va moins l'être. Et du coup, ben, je me dis, ben, voilà, si ça chauffe trop, je mets de l'ombre. Donc, je vais mettre, par exemple, des végétaux de haute taille en fonction de l'exposition au soleil, avec des végétaux de taille basse, avec moins besoin de lumière à côté, et ainsi de suite. Et mine de rien, ombre et lumière, pour le monde des insectes, c'est hyper important aussi. Et la créativité... Elle vient aussi, alors là, c'est quelque chose qui m'appartient un peu plus, mais dans mon milieu professionnel, c'est la création de paysages comestibles, de comment on peut allier pédagogie et végétal-animal, tout ce qui est biodiversité, tout le côté pratico-pratique, l'aspect visuel, etc. Et c'est un gros mix qu'il faut arriver à mélanger. Et en fait, il n'y a pas d'école en France, donc du coup, je suis obligé d'inventer à chaque fois, en fait. Et mon esprit de création, bah, il fonctionne régulièrement, puisque c'est régulièrement une activité que je pratique. Et du coup, c'est auto-entraînant, en fait. Et l'imaginaire, il va de plus en plus loin, et j'arrive toujours à trouver des nouvelles idées, des nouvelles envies, et ça fonctionne.
Waouh. Merci. Non, mais c'est vraiment chouette. C'est vrai que j'ai pas abordé ça, mais l'observation, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Et en effet, quand on commence à cultiver en soi son esprit créatif, eh ben après, c'est l'abondance, quoi. En fait, c'est comme un jardin, quoi. Finalement, quand tu commences et que tu as trouvé la bonne recette, eh ben ça fait que augmenter, quoi.
Ah bah oui, et puis on a toujours envie de découvrir, enfin moi je sais, c'est obsessionnel des fois, mais en fait c'est juste ce que ça m'apporte du bonheur, c'est toujours, tous les ans, essayer des nouvelles variétés, et d'avoir toujours de la diversité, du coup, parce que ça me permet aussi de continuer à comprendre les végétaux, les différentes familles, etc., mais c'est aussi en termes de goût. En termes, c'est des trucs tout bêtes, mais d'étaler les récoltes, d'avoir des couleurs, d'avoir des betteraves jaunes, des betteraves rouges, des betteraves...
Des framboisiers jaunes.
Ouais, voilà. Des betteraves blanches, etc. Et en fait, chacune a sa texture, chacune a son goût. Et ça me permet d'avoir un melting pot gustatif et nutritif qui est juste impressionnant. Et c'est derrière, moi, j'ai un autre objectif, et ça, c'est la base en jardinage, c'est la semence. Parce que pas de semence, pas de plante, pas d'oxygène, pas de nourriture.
Pas de vie.
Et donc, du coup, eh bien, c'est sélection des semences, justement, pour adapter à toutes ces modifications du climat, pour adapter aussi en fonction du goût des gens, pour adapter aux paysagers, pour adapter aux périodes de culture, etc. Et voire adapter sur des problématiques, soit d'attaque de champignons, de parasites, en fonction du milieu où on est, parce qu'il y a un déséquilibre. Mais quand tout est équilibré, on n'a pas de soucis. Moi, je m'occupe même plus des chenilles dans les choux, parce que les oiseaux qui vivent sur mon terrain, eux, ils ont l'habitude, c'est la 7e génération. Donc, ils viennent tout nettoyer, donc je n'ai pas à m'en occuper, en fait. Même au stade puceron, c'est...
Donc, même pas de purin d'ortie sur tes pucerons?
Non, j'utilise plus aucun purin et j'utilise... j'utilise quasiment que mes mains pour planter, pour faire tout, en fait. Même les chardons, je les arrache à la main.
Et Charlie, il mange aussi les orties qu'il cueille à la main et qu'il met directement dans la bouche. Moi, je prends encore les gants. Je voulais aborder ce sujet de biodiversité, en fait. En t'écoutant parler, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire que depuis une dizaine d'années, que du coup, je crée mon activité autour de la connaissance de soi, autour du yoga, des mouvements, du mouvement naturel. J'ai pas mal de personnes qui, aujourd'hui, sont dans un mal-être par rapport à leur travail, notamment, qui sont pas heureux ou heureuses dans leur boulot, qui parfois me regardent avec des yeux envieux, et c'est tant mieux d'ailleurs, si je peux mettre cette petite graine-là, de changement en tout cas, chez ces personnes, c'est chouette. Et puis j'ai souvent ces questions qui reviennent et qui me disent « Mais toi, comment tu fais dis-moi comment t'as fait, je veux faire pareil, je veux faire comme toi. » Et en fait, je réponds jamais à la question, pas parce que j'ai pas envie, mais dans le radicalement vivant, aujourd'hui, je pense que la leçon, elle est vraiment là. C'est-à-dire que tu vas trouver ta place. En fait, personne n'a à copier ce que je fais, personne n'a à copier ce que toi, tu fais. Une carotte, elle n'essaye pas de devenir une betterave. Un chou, il n'essaye pas de devenir du persil. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, être radicalement vivant, c'est être radicalement soi, en fait. N'essaye pas de devenir comme un tel ou un tel que tu regardes avec des yeux en vue en disant « Oh là là, mais elle a réussi à faire ça, mais moi je peux pas parce que je suis coincée dans ce boulot, parce que j'ai un crédit à payer, non je peux pas changer de boulot alors que je rêverais de devenir coach ou je rêverais de devenir herboriste. » Ben oui, en fait, fais-le. Et tu vois, moi aujourd'hui j'accompagne des femmes, surtout des femmes, qui sont en reconversion professionnelle. Et quel bonheur, en fait, de les accompagner, et quel bonheur de leur répéter. On est dans la biodiversité, et bravo, deviens qui tu es, sois radicalement qui tu es, parce qu'en fait, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de carottes, le monde a besoin de betteraves, le monde a besoin de persil, le monde a besoin d'herboristes, le monde a besoin de coachs, le monde a besoin de jardiniers, le monde a besoin d'animateurs, etc., etc., en fait. Et je crois que... Là-dessus, on est vraiment raccord, en fait. Toi, tu le sais, la biodiversité, elle est nécessaire à l'équilibre dans les jardins.
Ah ben ouais, puis rien n'est abouti, même en termes de biodiversité. C'est jamais figé, en fait. Il y a aussi des mutations, il y a aussi des créations d'espèces, etc., etc. Et c'est comme pour moi, mes projets de diffusion de pratiques respectueuses du monde vivant, ce sera jamais fini. Et j'ai pas envie, je m'en fous qu'il y ait un bout ou pas. C'est juste, j'ai envie de le faire, je le fais, quoi. Et puis, en mine de rien, même des fois sans l'avoir mentalisé ou intellectualisé, ça coule de source. De plus en plus de projets de plantation, de forêt, micro-forêt, forêt comestible, à comestible et compagnie. Que du coup, le nouveau stade où je vais arriver, ça va être de produire moi-même et d'avoir une maîtrise 100% de la génétique des végétaux que je vais proposer. Donc voilà, et puis après il y a encore un autre projet pour après, et voilà, c'est de la satisfaction à chaque fois qu'on, pas spécialement qu'on y arrive, mais qu'on le fait au moins.
Ouais, c'est ça, il y a l'idée, donc qui reste immatériel, et tout d'un coup, enfin pour moi, être radicalement vivant, c'est ça aussi, c'est sortir de sa tête, sortir des idées, sortir des pensées et matérialiser ce qu'il y a dans ta tête, parce que le monde a besoin en fait que tu matérialises ton projet. Et puis comme tu l'as dit, en fait, un échec ou pas un échec, une réussite ou pas une réussite, en fait, peu importe. Une carotte, quand elle pousse, il n'y a pas ses copines carottes qui sont en train de lui dire « Ouais, bravo, t'as réussi à être toute droite !» Mais en fait, non, en fait, il n'y a pas une carotte réussie et une carotte ratée, en fait. Ça c'est nous, c'est nos, c'est les conceptions, la conception du monde qu'on peut dire moderne qui a mis des étiquettes sur ce qui était réussi, raté, sur ce qui était le modèle, la norme. Mais en fait, peu importe, il n'y a pas finalement dans le monde du vivant végétal et du vivant, enfin dans la faune et la flore, il n'y a pas de normes.
Ouais, moi souvent j'aborde Darwin sur l'interprétation en fait que la société moderne en fait. C'est-à-dire que Darwin en fait, il a juste montré qu'il y avait une évolution naturelle, hein, voilà, point, c'est tout. Il s'est pas positionné autrement ou pas plus que ça. Mais en fait, il y a eu des interprétations et il y en a une qui est celle dominante actuellement, qui est celle de la loi du plus fort. Donc un prédateur, il est plus fort qu'un prédaté. Mais en fait, pas du tout. C'est en fait, il y a aussi une autre personne qui a écrit un livre, en 1919, ça a pris 8 ans pour l'écrire, qui s'appelle « L'entraide, facteur principal d'évolution des espèces ». Et il montre clairement que en fait, un prédateur et un prédaté, ils ne sont pas en concurrence. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ils ont une interdépendance avec une interaction qu'il y en a un qui mange l'autre. Mais en fait, le prédateur, il enrichit génétiquement le prédaté puisqu'il va, entre guillemets, prendre les plus faibles, les malades, les plus âgés et les plus jeunes. Ce qu'on appelle une sélection naturelle. Qu'avec le regard anthropocentrique, on va dire « Oh là là, la pauvre bichette, elle s'est fait tuer par le lion. » Ben ouais. Mais le lion, il n'y a pas le choix, sûrement il meurt. Et inversement, vu que le prédateur enrichit le prédaté, qui lui aussi va améliorer ses techniques de défense, d'autodéfense, voilà, et puis de sauver sa propre vie, et ben il va aussi améliorer génétiquement le prédaté, qui lui va affiner ses techniques de chasse, etc., voire son corps en lui-même va évoluer pour avoir peut-être des masses musculaires plus fortes, des réflexes différents, etc. etc. Et tout ça, c'est en évolution. Mais ce n'est pas une compétition. C'est juste de l'entraide, en fait. Et là, en l'occurrence, elle est génétique.
Alors, j'adore cette vision. J'adore cette vision parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que quand on vit un problème dans sa vie, bah, c'est une opportunité. Alors, c'est vraiment pas courant dans une société aujourd'hui qui veut tout lisser. Que voilà, il n'y ait pas de problème, que tout soit chronométré. Mais en fait, moi, je trouve et je pense que l'épreuve est une opportunité d'évolution. Et en fait, là, tu l'expliques super bien avec cette image du monde animal, avec le prédateur et le prédaté. Mais on peut le remettre à l'échelle de l'humain. Voilà, tu vis une vie tranquille, puis pof, tout d'un coup, il t'arrive un changement radical dans ta vie, un gros problème, ton conjoint qui s'en va, un enfant qui est blessé, une perte de boulot, une maladie qui te tombe dessus. Oui, on peut le voir dans le sens d'une opportunité, parce que avant, ben, tu traçais ta route d'une certaine manière, et ce virage sur ta route va t'obliger à développer des capacités autres. Voilà. C'est magique, quoi.
Ben oui.
C'est magique.
Ouais, puis c'est simple.
Ah ouais. En tout cas, si on voit les choses de cette façon-là, voilà. Et là, l'idée aussi avec ce podcast, c'est aussi de vous mettre des petites graines, de semer, de voir comment ça peut pousser chez vous et de proposer finalement une autre vision aussi du vivant, de comment on est vivant en soi, de comment c'est vivant autour de soi, comment les vivants interagissent entre eux et comment finalement tous les vivants permettent d'évoluer les uns les autres. Se permettre d'évoluer en soi et d'évoluer autour de soi. Enfin bref, le cercle vertueux. Alors moi, je voulais venir quand même revenir sur un terme, le terme de permaculture, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux bien, toi, évoquer ce qu'on appelle communément la permaculture ? Et moi, j'évoquerai une petite branche qui est un peu plus nouvelle, on parle de permaculture humaine. Mais voilà, je vais te laisser ta parole.
Ouais, la permaculture, à la rigueur, c'est plus une démarche philosophique. du monde vivant, en fait. Alors, déjà, l'éthique, c'est le respect de la faune, de la flore, des autres et de soi-même. Et ça concerne, en fait, tous les domaines de la vie. Souvent, c'est bien c'est tronqué parce qu'on imagine que c'est que le volet environnemental via le jardinage, mais c'est juste un pétale, en fait, de la fleur de la permaculture. Et du coup, c'est une démarche globale. Mais cette démarche globale, y arriver tout seul, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je parle d'entraide, parce que c'est par l'entraide qu'on va arriver à mettre en place tous ces pétales. On peut pas connaître, on peut pas, ou alors je connais personne, en tout cas dans ce cas-là, qui connaît tous les corps de métier. On aura toujours besoin d'un autre. Et plus on va favoriser ces facteurs d'entraide, plus on va aller dans cette démarche de permaculture, de monde vivant, de monde résilient. Donc la résilience et capacité à réagir face à des fractures, alors ça peut être climatique ou autre, hein, enfin voilà, il y en a plein, mais c'est vraiment une capacité à développer et du coup à continuer à s'enrichir, en fait.
Merci. Le petit volet sur la permaculture humaine, qu'on peut, c'est peut-être un terme que tu as déjà entendu et qui, disons, commence à être démocratisé au sein du grand public. Moi, le petit volet que je voulais apporter, c'est, alors oui, l'entraide, oui, être ensemble, mais avant ça, en tout cas, c'est ma conception des choses, et c'est comme ça que j'aime le transmettre, il n'est pas évident d'être en lien avec l'autre si d'abord, tu n'es pas en lien avec toi. Et pour moi, le côté permaculture, rapporté à soi-même, il est là, en fait. C'est comment je peux chaque jour me connaître, mieux me sentir, mieux faire le ménage là où il faut faire du ménage, rééquilibrer telle zone du corps par rapport à telle autre, parce que, en fait, si je sais comment je suis au-dedans, l'interaction avec l'autre, elle sera tout aussi facile, tout aussi constructive, est tout aussi bénéfique, finalement, pour le monde autour de soi, en fait. Voilà, c'était le petit apport que je voulais évoquer par rapport à la permaculture.
Voilà.
Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Charlie ? Est-ce que tu veux faire le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est vive la vie, quoi.
Vive la vie et soyons radicalement vivants.
Voilà.
Génial. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et voilà, c'est terminé pour cet bel échange que nous avons eu avec Charlie, donc d'une durée totale d'une heure. C'était vraiment un grand, grand plaisir. On aurait pu encore discuter ensemble une heure de plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait après l'enregistrement, bien évidemment. Vous imaginez, vous mettez deux pipelettes ensemble, ça ne s'arrête jamais. En tout cas, si cet épisode t'a plu, t'a parlé, eh bien merci beaucoup de le diffuser, de le partager, car je pense vraiment, sincèrement, profondément qu'aujourd'hui, il est hyper important de prendre conscience que le vivant de notre corps intérieur est exactement en résonance avec le vivant de l'extérieur. Voilà, et tout ce qu'on a pu se dire sur cette heure de podcast, épisode 5 et épisode 6, le prouve, le montre. On ne dit pas tout, bien évidemment. On est en train simplement de brosser largement ce que c'est être vivant aujourd'hui dans ce monde moderne. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ensemble, on pourra continuer vers ce vivant, encore plus aligné. Et puis, bien écoute, on se retrouve sur les prochains épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.